Europe 1, il est 5h.
Réviser des notions, être sûr qu'on n'est pas complètement à côté de la plaque avant les vacances, je pense que c'est toujours bon à prendre.
Bon à prendre pour les enfants et les parents, soulagés de pouvoir retourner au travail. Retour en classe obligatoire pour 10 millions d'élèves ce matin.
Ils ont été mobilisés au plus fort de la crise du Covid pour prêter main forte dans les hôpitaux d'Île-de-France. Trois mois après, infirmières et infirmiers libéraux n'ont toujours pas été payés.
Après 9 mois de travaux, la Convention citoyenne pour le climat a rendu hier son rapport à l'exécutif. 150 propositions qu'il va maintenant falloir défendre face aux Français.
Toutes nos mesures ne sont pas adoptées de manière unanime encore dans l'opinion publique, donc il va falloir vraiment battre campagne.
La double peine dans les EHPAD alors que la lutte contre le Covid continue. Une vague de chaleur est attendue en France cette semaine.
Bonne nouvelle pour les amoureux du 7e art. Les cinémas rouvrent ce lundi et certains se sont même fait une toile dès cette nuit.
C'est notre petit geste à nous, puis c'est aussi évidemment pour qu'on se fasse plaisir. À des heures où d'habitude, moi je suis dans mon 4e sommeil.
5h01 sur Europe 1. Très bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Après 6 semaines d'école en dents de scie et plus de 3 mois de cours à la maison, ça y est, c'est l'heure de la reprise. Retour obligatoire en classe à partir d'aujourd'hui pour 10 millions d'élèves, du primaire au collège. Alors comment est-ce vécu par les parents et les enfants? Marion Calais a posé la question à une famille pour Europe 1.
C'est bon, ça va, c'est pour 2 semaines.
Allez, 15 jours à temps plein, ce devrait être supportable pour Adélie, scolarisée en CM1, qui appréhende quand même un peu le réveil quotidien.
Se lever tôt le matin, ça donne pas envie. Moi, j'aurais préféré me réveiller à 11h et y aller à 12h.
Pas d'appréhension, en revanche, du côté de sa maman, pour Fanny, ça va?
Très bien, c'est une libération.
Pour cette maman solo de 2 enfants, cette reprise, c'est d'abord un quotidien simplifié.
Jusqu'à présent, chaque semaine était différente. Il fallait toujours être sur le qui-vive, prêt à changer tous nos plans. Comme ils avaient repris l'école à mi-temps, j'étais obligée de prendre 2 à 3 jours de congé par semaine.
Fanny qui voit aussi des vertus pédagogiques à ce retour en classe.
Réviser des notions, être sûr qu'on n'est pas complètement à côté de la plaque avant les vacances, je pense que c'est toujours bon à prendre.
2 semaines qui vont aussi servir à organiser les vacances, avec toujours des incertitudes, notamment sur l'accueil dans les centres de loisirs.
Pour accueillir tous les enfants, le protocole sanitaire a été allégé. Fini la règle des 4 mètres carrés par élève. Ils ne seront séparés plus que 1 mètre dans les classes.
J'appelle tous les parents à avoir confiance dans l'institution de l'éducation nationale. Tout est fait pour que leurs enfants soient accueillis en sécurité. Voilà ce qu'a déclaré hier Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement. Malgré tout, certains parents ne sont pas rassurés, comme Anne qui habite Cergy dans le Val-d'Oise. Elle a décidé, malgré l'obligation, de ne pas remettre à l'école ses 2 enfants scolarisés en CE2 et CM2. Selon elle, c'est encore trop dangereux.
Tous les enfants sont censés venir. Donc ça veut dire qu'on passe de classes où il y avait une 15aine d'élèves maximum, où il y avait un sens de circulation à respecter, et d'un seul coup, il n'y a plus de protocole. Le maître et la maîtresse ne sont même pas obligés de porter des masques. Si la distanciation est respectée, or on sait très bien qu'avec des jeunes enfants, ce n'est pas possible. C'est bizarre quoi, de passer d'une situation extrême à plus rien du tout. Et du coup, j'en ai parlé avec le directeur. J'ai posé la question, j'ai dit, est-ce qu'on va avoir une sanction? A priori, il n'y aurait pas de sanctions. Des plus jeunes sont aussi décédés de ce virus sans forcément avoir des pathologies particulières. Donc voilà, comme on ne sait pas vraiment qui en est, on reste sur nos gardes et on est prudent.
Témoignage recueilli par Johanna Chabas pour Europe 1. Il est 5h04.
Vitesse limitée à 110 km/h sur l'autoroute, reconnaissance du crime d'écocide ou encore inscription de la lutte contre le réchauffement climatique dans la Constitution. Ça y est, après 9 mois de travaux, la Convention citoyenne pour le climat a rendu hier son rapport à l'exécutif. 150 propositions, dont 2 pourraient être soumises à référendum. C'est donc une nouvelle phase qui débute pour les citoyens membres de la Convention, celle de la campagne pour défendre leurs mesures. Pauline Jacquot.
Au Parlement, par décret ou par référendum, les 150 citoyens veulent maintenant que leurs propositions soient adoptées. 9 mois de travail qui doivent se concrétiser, selon Annie, membre de la Convention.
Toutes nos mesures ne sont pas unanimes, c'est sûr. Elles ne sont pas adoptées de manière unanime encore dans l'opinion publique. Donc il va falloir vraiment battre campagne. Aussi bien les citoyens que les politiques, que les ONG, les militants, il faudra que tout le monde s'y mette.
2 propositions pourraient être soumises à référendum. L'inscription de la lutte contre le réchauffement climatique dans la Constitution et la reconnaissance de l'écocide, le crime contre l'environnement, 2 mesures, 2 piliers d'une nouvelle politique environnementale, souligne Mathieu.
On peut se retrouver à avoir du coup une façon d'envisager la suite de l'économie, la suite de la façon de travailler, de vivre, beaucoup plus vertueuse et qui pourrait permettre justement d'arrêter et de freiner en tout cas le réchauffement climatique. Ça peut être la fin des lotissements, ça peut être envisager la rénovation des bâtiments d'une autre manière, se déplacer autrement, voilà, tout ça.
La décision finale d'un vote par référendum reviendra au président de la République. Il recevra les membres de la Convention citoyenne à l'Élysée lundi prochain.
Ils ont répondu à l'appel sans hésiter, se sont mobilisés en quelques jours pour prêter main forte aux hôpitaux d'Île-de-France débordés par l'épidémie de coronavirus. Ce sont les infirmières et infirmiers libéraux.
Mais plus de 3 mois après, beaucoup de ces soignants libéraux n'ont toujours pas reçu leur salaire.
Une situation que dénonce John Pint, vice-président du syndicat national des infirmiers et infirmières libéraux.
On voit bien qu'en Île-de-France, il y a eu énormément de centres Covid qui ont été mis en place. Ni les infirmiers, ni les médecins dans ces centres n'ont pour l'instant pas pu être rémunérés. Et la réponse qu'on a de l'ARS, c'est que ça va venir dans les jours prochains. Des infirmiers se retrouvent avec ce manque à gagner pour l'instant. Les charges continuent de tomber puisqu'on est profession libérale. Certains infirmiers ont eu une perte d'activité pendant toute la période de Covid et le confinement. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est de l'argent qui n'arrive pas, qui peut mettre en difficulté certains professionnels de santé, oui. Ça peut chiffrer sur plusieurs milliers d'euros, surtout s'il y a eu en plus des actes dans les EHPAD, où là, c'est vrai que c'est une grosse partie de l'activité qui, pour l'instant, est en attente de paiement ou qui est pour l'instant rejetée.
Le vice-président du syndicat national des infirmiers et infirmières libéraux au micro Europe 1 de Nicolas Feldman.
C'est le plus bas bilan quotidien depuis le mois de mars. 7 personnes sont décédées ces dernières 24 heures du coronavirus, 29 600 morts au total. Plus de 74 000 personnes sont sorties guéries de l'hôpital.
En revanche, en Guyane, la situation est inquiétante. L'épidémie connaît une brusque accélération depuis 10 jours.
17 soignants de la réserve sanitaire y seront déployés dans la semaine. Matignon annonce que si l'épidémie continue de s'y aggraver, l'hypothèse d'un reconfinement sera étudié. Un hommage à Steve Canisso hier à Nantes. Des milliers de personnes ont participé à une marche pour réclamer justice et saluer la mémoire de ce jeune homme de 24 ans décédé l'année dernière pendant la fête de la musique. Steve Canisso était tombé dans la Loire à la suite d'une charge controversée des forces de l'ordre. Son corps n'avait été repêché qu'un mois et demi plus tard.
Europe 1, il est 5h07, l'heure de se dépêcher de faire sa procuration.
Le second tour des municipales, c'est dimanche et étant donné les circonstances, un chiffre sera particulièrement scruté, celui de la abstention. L'Assemblée nationale a d'ailleurs adopté une loi élargissant le vote par procuration pour encourager un maximum de Français à voter. On écoute le mode d'emploi, signé Simon Rubin.
Première nouveauté, si vous avez fait une procuration pour le deuxième tour prévu initialement en mars, cette procuration est toujours valable pour le 28 juin, pas besoin de faire de nouvelles démarches. Deuxième changement, un mandataire pourra désormais porter 2 procurations contre une seule auparavant. Troisièmement, si vous ne pouvez pas vous déplacer pour faire les démarches à cause du Covid-19, vous pouvez demander qu'un agent de police ou de gendarmerie se rende à votre domicile pour établir la procuration. Enfin, vous n'avez plus besoin d'une attestation sur l'honneur pour justifier la raison de votre absence. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de date limite pour effectuer une procuration, même s'il vaut mieux éviter de faire les démarches la veille du scrutin, le temps que les formulaires parviennent en mairie.
Simon Rubin, et puis ne manquez pas, à partir de 6h, les résultats de notre sondage exclusif concernant le second tour des municipales à Paris.
De fortes chaleurs annoncées cette semaine, plus de 30 degrés attendus en France, voire 35 localement, avertis Météo France.
Dans les EHPAD, le personnel se prépare à cette vague de chaleur, synonyme de double peine, alors que la lutte contre le Covid continue. Des consignes du ministère de la Santé ont été envoyées aux maisons de retraite et elles ne font pas l'unanimité. Caroline Baudry.
C'est la consigne qui effraie Pascal Chanvert, président de l'association des directeurs au service des personnes âgées et à la tête de 5 EHPAD. Seuls les résidents non contaminés et sans symptômes auront accès aux salles climatisées. Difficulté supplémentaire, garder 4 mètres carrés par résident dans la salle rafraîchie.
Donc il y a des pièces climatisées qui vont se trouver trop petites par rapport au nombre de résidents qui pourraient y séjourner. Et donc la question majeure qui se pose, c'est quand aurons-nous suffisamment de personnel pour accompagner correctement les personnes âgées, pour qu'elles ne décèdent pas par milliers quand il y a la canicule ou quand il y a la grippe hiver ou quand il y a le Covid.
Les résidents potentiellement contaminés devront rester eux seuls dans leur chambre, porte fermée, peut-on lire dans les dernières consignes du ministère de la Santé. Problème, en l'absence de climatisation, un ventilateur ne peut être utilisé que si le résident est capable de l'éteindre par lui-même. Conséquence, toutes les personnes diminuées ou atteintes d'Alzheimer seraient alors privées de moyens de se rafraîchir.
17 ans après, va-t-on assister au dénouement dans l'affaire Estelle Mouzin ?
La justice a prévu d'organiser des fouilles aujourd'hui dans deux anciennes demeures de Michel Fourniret. L'ogre des Ardennes mis en examen en mars dernier après avoir reconnu avoir enlevé et séquestré la fillette disparue à Guermantes en janvier 2003. C'est donc la piste terroriste qui est désormais privilégiée après l'attaque au couteau samedi soir à l'ouest de Londres.
Une attaque menée dans un parc de Reading qui a fait 3 morts et 3 blessés graves.
Un homme a été interpellé. Que sait-on de lui ? Les précisions pour Europe 1 d'Élodie Goulès, que notre correspondante à Londres.
Oui, la police confirme qu'il s'agit d'un jeune homme de 25 ans, réfugié libyen. Khairi Sadala, c'est son nom selon les médias britanniques. Il avait été repéré dès 2019 par le MI5 après que les services secrets avaient reçu des informations indiquant que le suspect souhaitait aller à l'étranger, potentiellement pour des implications terroristes. Mais dans la première phase de l'enquête, les policiers estimaient que Khairi Sadala ne représentait pas une menace immédiate à l'époque, ce qui semble poser question pour le Premier ministre Boris Johnson.
S'il y a des leçons à retenir de la façon dont nous gérons les événements qui engendrent ce genre d'incident, nous les apprendrons et nous n'hésiterons pas à passer à l'action si nécessaire.
Le gouvernement pourrait apporter des changements sur la loi antiterroriste. Il s'agit de la 3e attaque de ce genre au Royaume-Uni depuis le début de l'année. Londres, Élodie Goulès, Europe 1.
Après plus de 3 mois de fermeture, les cinémas rouvrent ce lundi.
Certains ont même ouvert leurs portes dès hier soir, à 00h01.
C'est le cas du cinéma Les 5 Comartins, près de la gare Saint-Lazare à Paris, où s'est rendu Angèle Châtelier pour Europe 1.
Au cinéma !
Champagne pour les équipes du cinéma, pop-corn offert pour les courageux spectateurs venus à 00h01.
Vous pouvez prendre du pop-corn si vous désirez, ou un coca. Et bonne séance.
120 cinéphiles installés sur les sièges, tellement qu'il a fallu ouvrir une seconde salle pour respecter la jauge de 50% de remplissage que s'impose le cinéma. Samuel Merle, l'un des gérants, les applaudit.
Vraiment merveilleux. Merci beaucoup.
C'est comme si on avait gagné une 3e étoile de la Coupe du Monde. Là, je suis tout fou.
Le premier film déconfiné, la comédie Les Parfums de Grégory Magne. Mais peu importe l'affiche. Pour les spectateurs, ce qui prime, c'est le plaisir de revenir en salles obscures, oui, mais aussi le symbole, vivre un moment historique et apporter son soutien au secteur.
C'est notre petit geste à nous, puis c'est aussi évidemment pour qu'on se fasse plaisir. À des heures où d'habitude, moi je suis dans mon 4e sommeil.
L'équipe du film a fait le déplacement, comme Emmanuelle Devos, l'actrice principale.
Je suis surprise de ma propre émotion. Ça me manquait vraiment terriblement. Toute la semaine, j'ai prévu un film par jour.
00h10, les lumières de la salle s'éteignent pour la première fois en 4 mois. 1h40 de film pour les spectateurs, tandis qu'au bar, les équipes de la salle savourent la réouverture.
Moi je bois, hein. À la vôtre.
Angèle Châtelier.
Europe 1, il est 5h12.
L'heure omblinde de ne surtout pas tomber de son cheval. C'est le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Lyon-Paris et mon pari gagnant sera le 503 Park of Diamond. Irréprochable lors de ses 4 dernières sorties et venant de très bien courir sur cette piste lyonnaise, ce poulain sérieux, visiblement au mieux de sa forme et qui s'adapte à tous les parcours, me semble être ici une certitude à l'arrivée. Alors notez bien, pour cet après-midi à Lyon-Paris, réunion 1 dans la 5e course, le numéro 3, Park of Diamond.
Merci Thierry Léger et à tout à l'heure pour vos pronostics du Quintet.
Europe 1.
Restez avec nous dans moins d'une minute. On va ouvrir ensemble vos journaux, les meilleurs articles à lire dans la presse. The pressing is coming. Très bon réveil à tous, à l'écoute d'Europe 1.
Europe 1, le 5-6. Julien Pierce.
5h14 sur Europe 1, votre pressing ouvre ses portes. Les articles les plus insolites racontés par mes deux acolytes, Omblin Roche et Paul Lassen qui nous a rejoint. Bonjour Paul.
Bonjour à tous.
Vous allez bien ?
Très bien, et vous ?
Bon week-end ?
Formidable.
Bon, et ben on va commencer avec notre chère Omblin, rayonnante ce matin, comme tous les matins, mais particulièrement ce matin. Quel article nous conseillez-vous ?
C'est désormais la guitare la plus chère de l'histoire. Vous la reconnaissez ?
Je reconnais l'air de David Bowie, oui, The Man
Exactement.
Who Sold the World.
Et c'est Nirvana, sur la scène des studios Sony Music de New York le 18 novembre 1993, l'enregistrement du mythique concert Unplugged, alors précisément de l'émission MTV Unplugged. Alors ce qu'il faut entendre, c'est donc cette guitare entre les mains de Kurt Cobain, une guitare semi-acoustique, un modèle rare, je vais le dire à la française, hein, le D18E, fabriqué en 1959.
Ah, c'est une Martin alors.
Oui, pas exactement par le luthier américain Martin, 302 exemplaires seulement. Alors ce jour-là, de novembre 1993, elle répondait aux règles de l'émission de la chaîne américaine, Unplugged, hein, voulant dire débranchés, puisque vous êtes bilingue. Les musiciens invités ne devaient utiliser alors que des instruments acoustiques ou semi-acoustiques. C'est quand même le principe. Et donc cet instrument a été vendu samedi à plus de 6 millions de dollars, frais et commissions compris.
Oui. Ça fait cher.
Prix de départ, ça fait cher la guitare. Prix de départ, 1 million. Autant vous dire que les enchères se sont envolées. On déchaîné les passions. Cher, ouais. La guitare a été vendue avec son étui.
Ah bah.
Personnalisée par Caroline.
C'est mieux que livré dans un carton. Hein. Oui.
Ainsi que 3 tickets de consigne à bagages. Le prix du ticket de consigne à bagages, imaginez. L'acheteur est un entrepreneur australien. Son entreprise conçoit des micros et il compte présenter l'instrument dans plusieurs villes du monde lors d'expositions. 6 millions. C'est 2 millions de plus que l'ancien record. La guitare la plus chère du monde avant était celle du guitariste des Pink Floyd, David Gilmour, une Fender Stratocaster baptisée Black Strat, vendue il y a un an, 4 millions. Donc il faut croire que tout ce qu'a touché Kurt Cobain vaut de l'or. Pour rappel, son gilet vert olive qu'on aime tant, qu'il portait pendant ce live, a été vendu l'automne
troué
dernier.
Troué et taché.
334 000 dollars. C'est énorme. Kurt Cobain n'a jamais entendu le résultat de ce concert. Hein. Unplugged n'a pas assisté au succès retentissant de sa prestation puisqu'il a mis fin à ses jours 6 mois plus tard. Il a assisté au concert. Le disque, lui et voilà, s'est tué 6 mois plus tard. Le disque MTV Unplugged a été publié en novembre 1994, donc un an après son enregistrement. Elle sonne bien quand même. Hein.
Ah bah elle peut.
Ouais, 6 millions, elle a intérêt.
La guitare la plus chère du monde, c'est dans le Huffington Post. Alors pour idée quand même, parce que j'ai cherché l'instrument le plus cher du monde, c'est un violon Stradivarius, le violon Stradivarius Lady Blunt, fabriqué en 1721, vendu en 2008 pour près de 16 millions de dollars.
Ah oui, on est dans une autre catégorie, là. Mais ça reste très cher.
Oui, mais en fait entre, il n'y a pas grand chose, il y a le violon et la guitare de Kurt Cobain.
Merci beaucoup, Omblin Roche. Paul Lassen, je vous écoute.
Coup de tonnerre chez nos voisins allemands, chez qui nous apprend le site Combini. On boude la saucisse. Et oui, les saucisses n'ont plus la cote, même à la fête de la bière.
Quoi ?
L'un des mets les plus consommés, mais surtout l'un des plus emblématiques de la gastronomie allemande. Eh bien, la saucisse se heurte aujourd'hui au désamour de ceux qui l'ont toujours chérie et aimée. Une tendance confirmée par des chiffres, ceux du rapport annuel sur l'alimentation publié par le ministère fédéral de l'Agriculture. 26% des personnes interrogées affirment désormais manger quotidiennement de la viande ou de la saucisse. En 2015, ils étaient 34%. Et pourtant, la Wurst est une institution. Les Allemands ont le choix entre 1500 sortes de saucisses différentes. Alors pourquoi un tel désamour?
Pourquoi?
Mais je vais vous répondre. Ne soyez pas trop impatients. Mais ça s'explique notamment par la conscience écologique et les nouveaux modes de consommation qui se développent. 55% des personnes interrogées dans l'étude se disent par exemple flexitariennes, c'est-à-dire manger de tout. Plus que de la viande, il y a du soja, des légumineuses, etc.
Donc moins de viande.
Autre signe concret de ce changement d'habitude, la chaîne de supermarchés allemande Aldi, très critiquée depuis des années par les associations de défense des animaux parce qu'elle casse les prix de la viande et elle commercialise de la viande abattue dans des conditions déplorables. Eh bien, Aldi vient d'être désignée supermarché vegan friendly de l'année par l'association de défense des animaux PETA pour la richesse de sa gamme végétalienne. C'est dire s'il y a du changement. Donc, Auf Wiedersehen, la saucisse de porc, et Willkommen, la schnitzel veggie. C'est à lire sur le site de Combini.
Ça donne envie. Hein. Ouais. La schnitzel veggie.
Veggie.
Veggie. Mais alors, qu'est-ce qu'on va manger à la fête de la bière à Munich?
Et avec la choucroute?
Ouais. Bah, des saucisses de soja.
Ouais.
C'est ça le monde qui change. Ah, une bonne grosse saucisse
et
au curry.
Et du pain sans gluten.
Voilà.
Merci beaucoup, Paul Lassen. Les amis, ce matin, je vous emmène dans un endroit à la fois magnifique et sans pitié. Je vous emmène en Alaska. No fear for when I'm alone. I'll be better off than I was before. Est-ce que vous reconnaissez cette musique?
Le film Into the Wild.
Absolument, c'est l'excellent
bande-son. J'ai l'écran sous les yeux. Hein.
C'est
l'excellent bande-son du film de Sean Penn, Into the Wild, sorti en 2007. Bande-son signée Eddie Vedder, le chanteur du groupe Pearl Jam. Into the Wild, c'est l'histoire vraie de Christopher McCandless, un étudiant américain parti seul à l'aventure dans la nature sauvage de l'Alaska. Et c'est là que je me dois de lancer une alerte spoiler. Bouchez-vous les oreilles si vous comptez voir le film ce soir pour la première fois.
On dit divulgâcher, hein, pas spoiler.
Oui, c'est vrai. Christopher McCandless est mort en 1992, mort de faim. Il a été retrouvé dans un autobus abandonné en plein milieu de la nature. Eh bien, Le Monde nous apprend ce matin que ce Magic Bus, comme il est surnommé dans le film, a été déplacé jeudi dernier afin de protéger les randonneurs trop téméraires. Un énorme hélicoptère de l'armée américaine, un Chinook, ceux qui ont deux rotors, je ne sais pas si vous voyez, a élitreillé l'engin datant des années 40 pour l'emmener dans un endroit tenu secret. Il faut dire que le Magic Bus était devenu, depuis la sortie d'Into the Wild, un site de pèlerinage pour de nombreux randonneurs pas toujours bien préparés. Et oui, l'Alaska, c'est beau, certes, mais c'est immense et hostile. Pas facile de trouver un tas de ferraille au milieu de la neige, des torrents glacés et des grizzlies affamés. Entre 2009 et 2017, 15 opérations ont dû être organisées pour secourir des randonneurs en quête du fameux bus. Pire, certains ont même trouvé la mort. Une Suissesse en 2010 et une Biélorusse l'année dernière. Toutes deux ont été emportées en traversant une rivière. Je précise que la Biélorusse était en voyage de noces. Elle venait de se marier. Ouais. Trop, c'est trop, ont réagi les autorités locales. Le Magic Bus a donc été emmené dans un site sécurisé jusqu'à ce qu'une décision soit prise à son sujet. Il pourrait être à l'avenir exposé dans un musée, ce qui tout de suite fait moins rêver. Voilà, c'est tout pour le pressing. Merci Paul Lassène. Dans un instant, c'est les doigts dans l'assiette. On va aller dans l'Aude, parler école à la ferme avec notre éleveuse Peggy.
À 5h25 sur Europe 1, les doigts dans l'assiette, le quotidien de ceux qui nous font manger.
Bonjour Peggy de Giorgio.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous ce matin Peggy. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes éleveuse à Feuillas et dans l'Aude. Comment allez-vous ?
Très bien, merci.
En ce jour de rentrée scolaire, vous vouliez nous parler de ces agriculteurs qui font l'école à leurs enfants à la ferme. Est-ce que c'est votre cas ?
Oui.
Vous avez combien d'enfants Peggy ?
Alors j'en ai deux, mais il y en a une qui est grande maintenant.
D'accord, donc il n'y en a plus qu'un dont il faut vous occuper. Il a quel âge ?
Elle a 12 ans.
Elle a 12 ans. Pourquoi avez-vous fait ce choix de lui enseigner l'école directement ?
Parce que c'était bien plus pratique pour nous au niveau des horaires. Sinon, tout est loin ici, le bus, l'école.
Il faut combien de temps pour aller à l'école la plus proche ?
Pour aller à l'école, il aurait fallu que... Pour qu'elle prenne le bus, elle se lève vers 5h30, 6h.
Enfin, ah oui. Voilà, c'est compliqué pour le rythme, effectivement. Comment vous faites pour conjuguer à la fois votre travail d'éleveuse, très prenant, et donner les cours par ailleurs ?
Eh bien, en fait, c'est facile de faire l'école en discutant. On peut apprendre plein de choses. Il suffit de regarder un petit peu le programme, en discuter. Et puis après, les enfants deviennent vite autonomes dans l'apprentissage. Et ça devient un jeu.
C'est-à-dire que concrètement, le matin, quand votre fille se lève, vous lui donnez le programme, vous lui donnez les exercices à faire, vous allez travailler par ailleurs et vous revenez à la mi-journée pour contrôler, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Elle devient un peu autonome. Alors, au début, on reste un peu avec et puis on est jamais très loin, en fait. Donc, elle peut toujours venir nous voir s'il y a un souci, s'il y a des questions. On s'appelle aussi maintenant, c'est facile.
Elle fait ses devoirs à côté de vous et des animaux, c'est ça ?
C'est ça.
C'est jusqu'à quel âge chez vous l'école à la ferme ? Jusqu'aux études supérieures ?
Oui, mais pour la grande, ça a été après. Elle a bougé un petit peu. Elles font pas mal de voyages. On leur fait faire du sport et langue, etc. Donc voilà, ça c'est quand même une autre aventure.
C'est-à-dire que le bac, c'est vous qui l'avez préparé pour passer le bac ?
Oui, c'est ça.
Ça doit être un sacré travail au quotidien malgré tout. Comment faire pour que les enfants ne se sentent pas trop isolés, pour qu'ils aient malgré tout des amis, des amourettes ?
Ah ben en fait, ici on reçoit beaucoup beaucoup de monde. Donc voilà, on a du monde au quotidien toute la semaine. Et après, on est isolés en temps, mais pas tant que ça, parce qu'on est qu'à une demi-heure de la plage. Donc,
donc c'est facile de se socialiser et de voir d'autres mondes. Et puis j'imagine qu'elles ont, vos filles ont des activités par ailleurs, elles font du sport, etc.
Oui, beaucoup de sport. Oui, beaucoup de sport et elles partent beaucoup faire des petits voyages. Et on bouge au moins une ou deux fois par an aussi.
Donc, d'accord. Voilà. Bon, bah écoutez, merci beaucoup Peggy de Giorgio d'avoir été en ligne avec nous ce matin depuis votre ferme à Feuillat dans l'Aude, ferme où l'on fait plein de choses, on vient de l'apprendre, même l'école. Prenez soin de vous et à très bientôt dans Les Doigts dans l'Assiette. Mon cher Laurent Cabrol,
oui.
Le temps donnera-t-il envie de retourner à l'école aujourd'hui ?
Pas trop. Ben, cette semaine, ça va être quand même assez, assez magistral au point de vue temps ensoleillé. Hein. Ça sera vraiment exceptionnel. Alors, les températures actuelles pour ceux qui s'habillent, 10 degrés à Caen, 11 à Nantes, 12 à Lille, 14 à Paris. Vous voyez que c'est pas très, très frais, hein. C'est même doux. 15 à Bourges et Cognac, 16 à Nancy, 17 à Bordeaux. Tenez-vous bien, 18 à Besançon, 19 à Toulouse, à Lyon et Strasbourg, 22 à Marseille et 23 degrés à Nice, des températures presque de journée que vous avez actuellement. Et vous allez donc vous habiller en conséquence, d'autant que dans le courant de l'après-midi, les quelques intempéries qui se manifestent actuellement dans le sud-ouest, sur le massif central, sur les régions de l'est, eh bien ces intempéries vont s'estomper pour laisser place au soleil, car le soleil sera le maître de la journée. C'est lui qui va nous diriger, celui qui va nous accompagner, celui qui va nous régaler, si vous aimez ça. Les températures maximales, attention, hein, 33 à Montpellier, 31 à Marseille, 26 à Paris, mais seulement 21 à Brest. Voilà.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. Bonjour Hélène Zelani.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Il est 5h30 sur Europe 1.
Cette prestation de coiffure qui était tellement attendue par nos résidents, en particulier les hommes. Il y a un de mes résidents qui m'a dit en souriant qu'il n'avait pas eu les cheveux aussi longs depuis mai 68.
On déconfine encore davantage dans les EHPAD. À partir d'aujourd'hui, les résidents peuvent recevoir des proches sans rendez-vous et sans personnel pour vérifier les gestes barrières. Pour les écoliers et les collégiens, c'est la reprise ce matin. Retour en classe générale, mais pour seulement 2 semaines. Nouvelle phase dans l'enquête sur la disparition d'Estelle Mouzin. Des fouilles lancées aujourd'hui dans 2 anciennes maisons de Michel Fourniret dans les Ardennes. Et puis une fête de la musique sans respect des gestes barrières dans certains quartiers parisiens hier. Témoignage sans filtre dans ce journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La vie reprend normalement dans les 7200 EHPAD de France. À partir d'aujourd'hui, les familles peuvent rendre visite à leurs proches sans rendez-vous et sans limitation de durée.
Ça ne concerne évidemment que les établissements où il n'y a plus aucun cas de Covid. Un soulagement dans ces maisons de retraite comme dans celle où s'est rendue Virginie Salmel.
Pliez le genou, monsieur le Dévidéon. Tendez.
Le kiné est revenu. Il réapprend à marcher à Charles, ce rescapé du Covid de 85 ans. Mais le plus important pour lui, c'est ça.
De voir mon épouse, qui était quelque chose d'essentiel. La même épouse depuis 40 ans. Alors c'est un régal, un délice. Retrouver un monde de liberté, ça me plaît beaucoup.
On sent le soulagement aussi chez Madame Rideau, 91 ans, qui sort de chez le coiffeur avec un petit carré et une frange.
On s'est un peu ennuyé dans les chambres pendant le confinement quand même.
Oh, bah bien sûr.
Mais là, le retour du coiffeur, le retour d'un petit concert hier.
Déjà, on m'a traîné au concert. J'ai pas regretté. Toréador, regarde. Je sors de là, on me traîne chez le coiffeur.
Cette prestation de coiffure qui était tellement attendue par nos résidents, en particulier les hommes. Il y a un de mes résidents qui m'a dit en souriant qu'il n'avait pas eu les cheveux aussi longs depuis mai 68.
La directrice de l'EHPAD, Virginie Alibert, souffle aussi les gestes barrières. Désormais, c'est aux familles de les appliquer, sans personnel qui accompagne chaque visite.
On les met en face de leurs responsabilités, comme nous, on a été en face des nôtres pendant plus de 95 jours. Et puis j'allais dire, Inch'Allah.
Et la prochaine étape, début juillet, ce sont les repas à une même table pour tous les résidents.
Et ce lundi est également une date particulière pour les enfants de la maternelle au collège. Tous rentrent en classe.
En tout cas, en théorie, fini la distanciation sociale en maternelle. 1 mètre latéral entre chaque élève en élémentaire et au collège, si possible. 2 semaines d'école avant les grandes vacances, ça fait peu pour travailler, mais ce sera quand même utile si on en croit les enseignants rencontrés par Victor Delande.
Ce qu'on a vu avec les enfants qui étaient déjà revenus, c'est que ce qui leur plaisait beaucoup, c'était de reprendre la vie d'avant.
Elsa Bernard va récupérer sa classe mélangée de petites et grandes sections de maternelle. Pas question d'assommer ses élèves avec des questions sur l'épidémie. Il faut surtout leur redonner le plaisir de l'école, dit-elle, et quelques repères.
Réapprendre à faire ce qu'on leur demande, attendre son tour, et retrouver les rituels qui structurent leur journée et qui les rassurent.
Elle va aussi faire des bilans pour voir ce qui a été fait à la maison pendant le confinement pour mieux passer le relais aux autres maîtresses. Au collège, le coronavirus peut en revanche servir de base pour cette reprise. En histoire-géographie, Hugo Billard va l'utiliser.
L'histoire-géographie joue un rôle civique derrière ces retours de pandémie qui sont sans doute importants pour expliquer le monde tel qu'il fonctionne et rassurer sur la manière dont on peut vivre ensuite l'été et puis la reprise de septembre.
L'idée n'est bien évidemment pas de rattraper le temps perdu et de terminer le programme en 15 jours. Le ministère de l'Éducation nationale n'a pas donné de consignes particulières aux professeurs, si ce n'est de renouer au mieux le contact avec leurs élèves.
On retourne à l'école, on retourne aussi au cinéma. Les salles obscures peuvent rouvrir aujourd'hui, mais en respectant la règle d'un spectateur sur deux. Casinos et salles de jeux peuvent aussi rouvrir leurs portes. Footballeurs, basketteurs ou handballeurs pourront eux retourner jouer dans les stades et les gymnases.
Europe 1, il est 5h34.
Et si l'affaire Estelle Mouzin était enfin élucidée 17 ans après, des fouilles sont en effet lancées aujourd'hui.
Fouilles dans deux anciennes maisons de Michel Fourniret dans les Ardennes. Le tueur en série a en effet été mis en examen en mars dernier après avoir reconnu avoir enlevé et séquestré la fillette Salomé Legrand.
Devant la juge en mars dernier, Michel Fourniret a reconnu avoir pris la vie d'Estelle Mouzin. Mais il est resté mutique sur l'endroit où se trouve le corps de la fillette, d'où les fouilles qui commencent aujourd'hui. Au château du Sautou, dans les Ardennes, où le tueur en série a vécu avec sa femme, Monique Olivier, mais aussi dans une maison de Ville-sur-Lume, dans le même département. Elle appartenait à la sœur de Michel Fourniret et les enquêteurs sont convaincus que l'ogre y a séquestré la fillette au moins durant quelques jours. Ils ont d'ailleurs retrouvé un ticket de caisse qui prouve qu'il a fait des courses à proximité deux jours après l'enlèvement. Dans un autre dossier, Michel Fourniret avait enseveli ses deux victimes par 3 mètres de profondeur à l'aide d'une pelleteuse. Il avait fallu des heures de fouilles pour les retrouver. D'après nos informations, le père d'Estelle Mouzin et ses avocats sont presque certains que ces recherches vont déboucher.
La fresque de la discorde à Stains en Seine-Saint-Denis, inaugurée par le maire la semaine dernière, elle représente les visages d'Adama Traoré et de George Floyd.
Avec ce titre, contre le racisme et les violences policières, le syndicat Alliance dénonce une provocation qui stigmatise les policiers et appelle à une manifestation devant la fresque aujourd'hui. L'hypothèse d'un reconfinement de la Guyane n'est pas exclue, en tout cas si les signes d'une accélération de l'épidémie se confirment. 17 soignants de la réserve sanitaire sont attendus dans la journée sur ce territoire français voisin du Brésil. Le Brésil, qui déplore déjà 50 000 morts.
Dans le feu de l'action, mesures de distanciation sociale et gestes barrières n'étaient plus qu'un lointain souvenir hier soir pour la fête de la musique.
Notamment à Paris, où on a vu des milliers de personnes collées serrées devant les bars, sans masque, une foule joyeuse et insouciante, inconsciente, diront certains. À l'image de Thomas, 27 ans, rencontré le long du canal Saint-Martin.
Je suis très content de pouvoir ressortir aujourd'hui pour faire la fête de la musique en l'occurrence. Il ne faut pas vivre dans la peur, il faut vivre sa vie. Au pire, c'est une grosse grippe, ça peut être mortel, mais tant pis, c'est pas grave. Pour moi, je m'en fous et je préfère prendre le risque et vivre ma vie pleinement que me cacher chez moi.
Voilà, chacun sa façon de voir les choses. Témoignage au micro Europe 1 de Johanna Chabas. Et hier soir, les forces de l'ordre sont intervenues pour évacuer la foule au bord du canal Saint-Martin.
Et puis Europe 1 lance son premier prix littéraire avec GMF. On connaîtra le lauréat mercredi.
Quel est l'esprit de cette récompense? Comment l'heureux élu sera-t-il choisi? Les réponses avec l'homme des livres sur Europe 1, Nicolas Carreau.
La sélection est restreinte, 5 romans seulement, mais le spectre est large. Il s'agit de récompenser un livre qui met en scène un héros au service du collectif. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être un prof, un policier, un soignant ou simplement quelqu'un sans fonction particulière qui se tourne vers les autres. Autre point commun, ce sont tous des romans, des fictions donc, et tous issus de la rentrée littéraire de l'hiver dernier, ce qui représente à peu près 400 livres. Le jury est large, il compte une quinzaine de membres, dont des personnalités du monde des lettres, de la fonction publique, de GMF bien sûr, des voix d'Europe 1 évidemment, en l'occurrence Sophie Larmoyer et Patrick Cohen, des auditeurs aussi, vous avez été plusieurs centaines à nous envoyer votre candidature avec une lettre de motivation et tout, c'était très impressionnant. 2 ont été choisis pour participer, le jury s'est déjà réuni par visioconférence étant donné les circonstances, chacun a défendu ses 2 romans préférés dans la sélection, le nom du lauréat sera dévoilé mercredi soir.
Et pour vous faire votre idée, les 5 romans en lice, Le courage des autres d'Hugo Boris, Le théâtre des nuits de Carla Derhold, La belle Hélène de Pascal Rose, Ce qui est nommé reste en vie de Claire Fersac et Monsieur le maire de Pascal Grégoire.
Je vais vous donner tout de suite le vainqueur, c'est La belle Hélène de Pascal Rose. Ça fait beaucoup de livres à lire jusqu'à mercredi soir. Hein. On va s'y mettre tout de suite. C'était le journal d'Hélène Zélani. Merci Hélène. On vous retrouve pour l'édition de 7h.
Europe 1, il est 5h38.
Les courses avec les pronostics du quintet de Thierry Léger. On va où cet après-midi Thierry?
Direction l'hippodrome de Lyon-Paris pour ce quintet disputé sur les 1350 mètres du tracé corde à gauche de cette piste lyonnaise. Et parmi les 16 partants, j'ai choisi le numéro 7, Rimini, qui défend les couleurs d'une casaque en super forme, celle de Gérard Laboureau, déjà lauréate du quintet de samedi dernier à Compiègne. Sa principale rivale sera le numéro 3, Mrs. Worthington, qui a fait ses classes en Angleterre, mais qui depuis qu'elle est arrivée en France est visiblement en plein épanouissement. épanouissement. Ensuite, je vous recommande le numéro 5, Trois-Îlets, pour lequel son entraîneur Vaclav Luka n'a pas hésité à faire un long déplacement depuis la Tchéquie, mais aussi le numéro 12, Zalamea, allant est capable d'aller très loin sur ce parcours. Enfin, les numéros 8, Dégrisement, 2, Canderas, 6, Maris Picnic et 9, Prince Hamlet compléteront ma sélection. Mon pronostic, 7, 3, 5, 12, 8, 2, 6 et 9.
Pronostic à retrouver sur notre site europe1.fr. Merci Thierry Léger et à demain.
Europe 1, Julien Pierce.
Dans quelques heures, les crèches, écoles et collèges vont enfin rouvrir leurs portes à tous les enfants. Certains n'y sont pas retournés depuis le début de la crise sanitaire. Comment aborder cette rentrée particulière à 2 semaines des grandes vacances? Pour en parler, Julien, votre invité, Nicolas Anoto, professeur d'histoire-géographie dans un collège à Béziers et délégué national lycée-collège au syndicat des enseignants SEUNSA.
Bonjour Nicolas Anoto.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Est-ce que vous vous sentez prêt pour cette rentrée, quand même très particulière, puisque dans quelques heures, vous aurez face à vous des élèves que vous avez revus depuis le déconfinement et d'autres qui ont totalement disparu des radars depuis 3 mois?
Alors oui, prêt, mais en même temps assez anxieux par rapport au fait que certains élèves, je ne les ai pas vus en mai, je ne les ai pas vus début juin, donc je les revois pour la première fois depuis mars.
Vous craignez que certains élèves ne reviennent pas pour seulement 2 semaines de cours?
Alors, il est vrai que les semaines de fin juin ne sont pas les semaines pendant lesquelles on travaille le plus, parce que souvent on a rendu les manuels scolaires, ça sera le cas d'ailleurs maintenant. Souvent, le programme est à peu près achevé, donc on est dans une phase de révision, et c'est ça qui va être compliqué pour les 2 semaines à venir.
Concernant les élèves que vous allez retrouver ce matin, quelle proportion en aviez-vous en classe virtuelle?
Alors, la classe virtuelle n'est pas la seule modalité pour le travail à distance qu'on avait mis en place. J'avais une proportion de, on va dire, 5, 6, 7, 8 élèves seulement de la classe qui participaient aux classes virtuelles. Mais j'en avais la moitié, 2/3, même parfois 3/4 qui répondaient à des questionnaires à choix multiples que je leur envoyais sur des ressources. J'avais une part importante d'élèves, la moitié, qui me renvoyaient des devoirs que je leur demandais sous forme d'activité orale, sous forme d'activité écrite. Donc c'était des proportions différentes selon la manière, selon leur matériel, leur équipement.
Malgré tout, est-ce que ça veut dire que vous allez être confronté tout à l'heure à des écarts de niveau importants?
Alors, c'est pas des écarts de niveau auxquels je m'attends. C'est surtout des élèves qui auront compris telle ou telle partie qu'on aura étudiée à distance et d'autres qui seront moins avancés parce que je n'aurais pas pu les aider, parce que je n'aurais pas pu leur expliquer. Et c'est déjà cette situation auquel on est confronté depuis 2 semaines.
Et vous comptez remédier comment à ça? Vous allez faire un travail personnalisé, individuel, ou malgré tout, vous allez être obligé d'avancer sur le programme et de mettre tout le monde au même niveau?
Alors, je ne compte pas avancer sur le programme, même s'il me reste encore quelques chapitres. Je compte plutôt faire des révisions en faisant en sorte justement de pouvoir vérifier qu'est-ce que c'est qui a été bien compris par les élèves, quelles compétences est-ce qu'ils ont appris à développer cette année et lesquelles encore est-ce que je peux tenter de corriger en quelques heures de cours.
Comment allez-vous débuter vos cours d'ailleurs? Directement en ouvrant les manuels ou par un échange sur cette crise sanitaire et la façon dont l'ont vécu vos élèves?
Alors j'avais déjà, avec les élèves que j'avais retrouvés, j'avais commencé à discuter un peu qu'est-ce qui leur avait plu dans l'enseignement à distance. Ils m'ont dit par exemple que le fait de pouvoir régler leur emploi du temps comme ils le veulent, de pouvoir travailler à leur rythme. Ils m'avaient aussi expliqué que leurs amis leur avaient manqué. Donc je pense que je vais tenter de questionner un peu les élèves que je n'avais pas revus sur comment est-ce qu'ils vont. Mais par contre, il faut quand même que j'avance avec toute la classe, donc on va rapidement aller sur des activités.
Et sur les élèves qui ont malheureusement disparu totalement des radars depuis 3 mois, qu'est-ce que vous comptez faire si d'aventure il venait à être présent tout à l'heure?
Alors, c'est une phase de retrouvailles. Donc, on retrouve des élèves avec lesquels on a eu plus ou moins de contacts, mais des contacts à distance, ce qui n'est pas du tout pareil que le fonctionnement d'une classe dans laquelle il y a une certaine dynamique qui se passe. De toute manière, ce que les élèves ont manqué dans les mois à venir ne pourra pas être rattrapé sur cette partie de l'année, ni pendant les vacances. C'est toute l'année prochaine qu'il faut aménager pour retrouver les élèves qu'on avait perdus pendant quelques mois.
Comment ça va se passer en classe avec le nouveau protocole sanitaire? Est-ce que vos bâtiments sont suffisamment grands avec la règle des 1 mètre entre chaque élève?
On va garder pour les deux semaines à venir la manière de fonctionner de l'établissement qui avait été mise en place depuis la mi-mai, c'est-à-dire qu'on a des horaires un peu différents, c'est-à-dire qu'on a des jours de désinfection, c'est le cas notamment du mercredi, et donc des emplois du temps qui sont refaits. On a des entrées et des sorties des élèves qui sont faites différemment, mais effectivement, le protocole est allégé, donc on va pouvoir avoir plus d'élèves en classe et on revient au fonctionnement des classes entières.
Et bonne nouvelle pour vous, vous n'aurez plus à porter un masque.
Alors, c'est un peu compliqué pour le masque parce que, pour l'instant, c'est vrai que je n'avais pas besoin de porter le masque quand j'étais à plus de 1 mètre des élèves, mais je trouve compliqué de demander aux élèves de le porter et de ne pas le porter moi-même. Donc, pour l'instant, je continue à le porter, mais je vais voir un peu comment va se passer cette semaine.
C'est-à-dire que vos élèves porteront le masque pendant votre cours ?
Alors, effectivement, pour les collégiens, on partait encore sur le port du masque dans mon établissement.
D'accord. Avec tous ces retards accumulés dans les programmes, est-ce qu'il faut que les élèves travaillent cet été pour ne pas être perdus à la rentrée de septembre ? Vous avez dit qu'il faut qu'on aménage l'année prochaine pour rattraper ce retard. Malgré tout, est-ce que les élèves doivent travailler cet été ?
Alors c'est vrai que pour mon syndicat, pour le SUNSA, le but ce n'est pas que les vacances soient apprenantes, mais bien qu'elles soient un moment de repos où les élèves peuvent, qui ont été anxieux pendant cette période, puissent se détendre. En revanche, il faut prévoir des moyens pour l'an prochain, il faut qu'on puisse mieux accompagner les élèves de manière individuelle et qu'on puisse aussi prévoir des scénarios pour s'adapter s'il y avait un retour de l'épidémie, ce qui est possible.
Êtes-vous d'accord avec votre ministre de tutelle, Jean-Michel Blanquer, pour qui 2 semaines de cours, c'est très important, chaque jour compte dans la vie d'un élève, ce sont ses propos. Est-ce qu'il a raison ?
Les 2 dernières semaines de l'année ne sont pas les meilleures pour travailler. Et là, on ne va pas avoir une reprise à l'identique des cours comme c'était le cas en début de l'année. C'est une phase de retrouvailles, c'est une phase un peu de discussion avec les élèves sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qu'il faudra tenter de reprendre un peu l'an prochain ou pas. Donc on ne peut pas dire que c'est une reprise des cours comme si le temps s'était arrêté pendant quelques mois.
Mais vous n'avez pas le sentiment, comme certains de vos collègues, on a pu les entendre, que ces 2 semaines s'apparentent plus à de la garderie pour permettre aux parents de retourner à leur travail ?
Alors, il est vrai que les enseignants ont senti une certaine pression sur les questions sanitaires ou sur la question de il faut alléger le protocole pour pouvoir permettre à plus d'enfants de revenir. Il n'y a pas de garderie dans un établissement scolaire. De toute manière, quand on est avec les élèves, même que ce soit à travers un jeu, à travers une activité, à travers une discussion, il y a quelque chose d'éducatif qui se passe. Donc, les élèves qui reviendront travailleront d'une manière ou d'une autre.
Merci beaucoup, Nicolas Anneau, d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire-géographie dans un collège à Béziers et délégué national lycée-collège au syndicat des enseignants SE-UNSA. Je vous souhaite une très bonne rentrée et je vous dis à très bientôt sur Europe 1.
Merci à vous.
Europe 1.
Restez avec nous dans un instant, c'est la partition d'Omblin Roche, la chronique musicale de ce 5-6. Au programme ce matin, Omblin, une femme libre et déterminée.
Elle a enchaîné les petits boulots pour pouvoir continuer à se produire. Elle a même été prof de karaté.
Oula, à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, le 5-6, Julien Pierce.
5h47, l'heure de la partition d'Omblin Roche, ce qui se cache derrière une chanson, un concert ou un artiste. Une artiste en l'occurrence, avec sa crinière flamboyante, son maquillage extravagant, sa voix puissante et haut perché. Elle atteint les sommets au début des années 80. Cyndi Lauper fête aujourd'hui ses 67 ans.
Et avant de vendre des millions de disques, Julien, ce sont des années de galère dans les bars, sur les routes, ponctuées de petits boulots.
But I see your truth.
Cyndi Lauper grandit à New York, dans le quartier du Queens.
Enfant, elle joue de la guitare, mais ce qu'elle aime, c'est chanter. Adolescente, elle se passionne pour le rock'n'roll. À 21 ans, elle plaque tout, quitte New York. Sa mère, sa sœur, prend son chien Sparkle sous le bras et part sillonner le Canada en autostop.
À son retour, Cyndi Lauper épluche les petites annonces pour trouver un groupe.
Elle se fait engager comme choriste. Le soir, elle chante dans des clubs. Le jour, elle doit trouver de quoi gagner sa vie. Cyndi Lauper, avec ses cheveux multicolores, est tantôt secrétaire, tantôt professeur de karaté.
We start.
Guadeloupe des années 80, sa carrière d'artiste commence véritablement grâce à des enregistrements de reprises.
Et Cyndi Lauper intègre surtout le groupe Blue Angel qui se forge une solide réputation sur la scène New Wave de New York. Devant son micro, elle est déchaînée. On ne voit qu'elle, on n'entend qu'elle. La chanteuse est approchée par des maisons de disques, mais pas question de signer. Sans son groupe, Polydor cède et édite leur premier album.
Et c'est juste après la séparation de Blue Angel qu'elle accepte le contrat proposé par Epic, cette fois le label de Michael Jackson. En 1983, ces années de galère, d'errance sont désormais derrière elle.
Impossible de ne pas se retourner sur Cyndi Lauper avec ses cheveux rouges en bataille, comme si elle avait mis les doigts dans la prise. Des poignets recouverts de bracelets, une collection de colliers et de robes éblouissantes.
Son producteur lui propose de reprendre une chanson d'un sombre groupe punk.
Oui, elle est signée Robert Azar and the Heroes. Ce producteur entrevoit au milieu des propos macho la puissance d'un tube. Cyndi Lauper ne veut pas en entendre parler, puis finalement, elle écoute le morceau avec plus d'attention. Supreme, toutes les parties jugées misogynes ajoutent un soupçon d'humour, sa spécialité. Cyndi Lauper fait de Girls Just Want to Have Fun un hymne pop sucré et féministe.
Body.
L'exubérante Cyndi Lauper en 1983 est gérée d'une époque avec Girls Just Want to Have Fun, une chanson féministe de son album chez So Unusual qui la propulse sous l'effet des projecteurs du monde entier. Bon anniversaire Cyndi Lauper, 67 ans aujourd'hui.
Et on ne saura donc pas ce qui est advenu de Sparkle. Le chien de Cyndi Lauper.
Bah, il l'a suivi jusqu'au bout, j'imagine.
C'était la partition d'Omblin Roche. Merci beaucoup Omblin et à demain.
5h56, la matinale d'Europe 1 se poursuit avec Julien Pierce et Mathieu Béliard.
Ouh, il a l'air prêt. Bonjour Mathieu.
Il a l'air.
C'est plus
bonjour
important.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour
il
Julien.
Il est en train de rentrer son mot de passe sur l'ordinateur. Il n'a pas encore accès à son sommaire. Il faut qu'on meuble, ma chère Omblin.
Ah d'accord. Ah, on a éteint la lumière dans le studio.
Ah oui, on se voit plus.
C'est un peu comme. Non, mais c'était une très belle image, je trouve, de la réouverture des salles de cinéma.
C'est vrai.
On éteint la lumière.
Salles obscures.
Comme il est fort, tout est prétexte.
Le film va commencer, il y a le petit bonhomme avec la pioche là qui va arriver.
Comment il s'appelle Jean
Non mais ça c'est l'entreprise, mais oui. Jean...
Mince.
Ah je l'ai
Jean,
pas.
Jean.
Et mince, ouais. Sur son ticket là.
C'est Jean quelque chose, hein. Ouais. Ça c'est sûr.
Jean Mineur.
Oh, il y a eu soufflette.
Non.
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 Il n'y a pas eu de tricherie dans le casque.
Jean Mineur.
Jean Mineur, joli. Ben oui, avec, évidemment avec les outils pour aller à la mine. Voilà, on a fait le tour.
Je pense, oui.
Non, on n'a pas fait le tour. On va reparler du cinéma dans un instant. Mais merci Julien, merci Omblin d'avoir réveillé nos auditeurs depuis tôt ce matin sur Europe 1. C'est parti, 3 heures d'info, vous le savez. Ensemble, on écoute le monde changer.